Christ. Je vais essayer de parler de la question de la terreur révolutionnaire, de faire quelques hypothèses pour entrer dans l'intelligibilité de cette possibilité. Donc, je vais essayer de faire quelques hypothèses pour entrer dans l'intelligibilité de l'instauration de la terreur révolutionnaire. Je m'en tiendrai à la question de la terreur qui apparaît en France à partir de 1792 avec le début de la Convention nationale. Ce processus révolutionnaire, il naît à partir d'août 1789, déclaration des droits naturels de l'homme, et j'ai amené à réfléchir déjà sur la responsabilité de cette déclaration que nous admirons pour de multiples raisons que je ne développe pas, mais nous pouvons aussi réfléchir sur les effets du simple fait qu'il y ait une déclaration des droits naturels, parce que la question se pose, est-ce que ce qu'on appelle les droits naturels, ce qui est apparu comme tel dans notre culture, à travers les encyclopédistes, à travers Locke, à travers Huel, à travers Hobbes, à travers Grec, est-ce que le droit naturel comme tel est-il déclarable? Je fais un petit saut en arrière et j'examine l'apparition de ce qui se passe au moment de l'apparition de la première démocratie, Athènes. Pour autant que je me pose cette question, qu'est-ce qui fait que lorsque les droits naturels du citoyen est alors établi avec l'apparition de lois écrites coexistant avec une loi naturelle qui existe, qu'est-ce qui fait que la dimension de la terreur n'apparaît jamais en Grèce antique? Bien sûr, il y a Socrate, mais ça n'a rien à voir avec la dimension de la terreur collective que je vais examiner. Je commence par vous poser la question, comment pouvons-nous nous rendre compte de ce que nulle terreur ne soit apparue dans la démocratie grecque tant qu'elle n'a pas été abolie par une tyrannie? Et pour faire vite, je m'en tiens, par exemple, dans la trilogie d'Eschyle, à ce que Eschyle nous apporte dans les Euménides. Les Éphémérides, c'est ce texte où nous apprenons qu'à l'ancienne religiosité, où régnaient les dieux plutoniens, avec les Érinnies, les dieux vengeurs qui viennent des enfers, restituer une nouvelle loi, la loi des dieux olympiens, qui nous permet de transmettre aux citoyens une loi civile inscriptive sous forme de nomos, loi inscriptive. Et il est très frappant qu'à la fin de la pièce, Athéna, qui est la donatrice de l'idée de démocratie, la donatrice de la bienveillance des Olympiens de Zeus pour l'établissement d'un droit écrit, il est significatif que par rapport à ce qu'est les dieux antiques qui sont vaincus, et qui rentre du côté, on pourrait dire, de la fusille, de ce qui n'est pas inscriptible, eh bien, dans ce conflit qui substitue un homme à un autre, ces divinités antiques, qui sont les Érinnies, ne sont pas chassées de la cité. Elles changent de statut, elles deviennent des Euménides, et elles sont enterrées dans une grotte à l'entrée de la cité. Ceci pour vous dire que, avec cette démocratie, apparaît une maintenance, un équilibre en ce que nous pourrions très sommairement évoquer à travers ce couple du droit écrit, le nomos, et à travers le droit non inscriptif, la fusis, qu'un certain type d'équilibre demeure donc dans la Grèce antique Et dans cette maintenance, je dirais, du symbolique et d'une certaine présentification du réel, en tant que réel, c'est, je dirais, là, au centre canien, ce qui ne peut s'écrire, ce qui ne s'inscrit pas, je vois peut-être là ce qui a sauvegardé cette jeune démocratie de l'apparition de la terreur. Je dirais un peu plus en disant que peut-être la terreur n'apparaît-elle pas en Grèce antique parce que cette Grèce laisse coexister avec le pouvoir civil ce qui en est de la dimension tragique. La tragédie fait partie de la vie sociale. Et l'essence de la tragédie, je vais me référer à cette figure tragique, essentielle, qui traverse les siècles, Antigone, l'essence du conflit tragique, il faut comprendre pourquoi. Bon, Antigone entre dans un conflit avec Créon, qui n'est pas un conflit politique, mais un conflit tragique. Pourquoi c'est un conflit politique ? Ça aurait été un conflit politique si dans la constitution écrite, le nomos, il avait été écrit, on enterrera tous les membres, fussent-ils des assassins. Ça n'est, or, ça n'est pas le cas. Si ça avait été écrit, je dirais, auquel cas le Créon avait voulu passer outre à cet écrit, je dirais que là, ça aurait été un conflit politique. Ça devient un conflit tragique parce que ça n'est pas écrit et que Antigone fait valoir l'existence d'une fusée, d'une loi non écrite. Ça ne peut pas s'écrire. Elle invoque un dieu inconnu, on ne sait pas lequel, on peut avoir des soupçons, mais en tout cas, c'est un dieu qui ne se manifeste pas par le nomos, mais c'est un dieu qui lui transmet une sorte d'inspiration qui la pousse à poser son acte, ne s'autorisant que d'elle-même, avant un certain Jacques Lacan, ne s'autorisant que d'elle-même, c'est-à-dire de cette loi non écrite, elle dit, moi, Antigone, au nom de cette fusée, j'enterre mon frère. Alors, je quitte Athéna, je quitte la cité grecque, et j'arrive, je saute les siècles, et j'arrive, c'est en 89, quand après des siècles de cheminement, l'idée du droit naturel fait son chemin à partir de la Renaissance qui renoue avec Socrate, après la Renaissance, les Anglais, Hobbes, Locke, et puis les encyclopédies, naturellement, et accouchant de cet immense parcours, le droit, l'idée du droit naturel, aboutit, s'incarne dans un acte qui sort des salons philosophiques. On arrive donc 89 à un acte qui sort des salons philosophiques pour s'inscrire comme un acte d'écriture, proclamation des droits naturels. La question tout de suite que je pose, c'est pour autant que le droit naturel, tel qu'il nous arrive des anciens, est un droit qui est inscriptible. Comment devons-nous évaluer le fait que ce qui est inscriptible cesse de ne pas s'écrire ? Ça, c'est une formule de Lacan qui dit le réel, ce qui ne cesse de ne pas s'écrire, cesse de ne pas s'écrire avec une analyse. C'est une formule qui correspond à une possibilité qu'offre la unique analyse. Le problème, c'est que là, nous sommes dans un terrain politique, communautaire, qui engage une cité, une nation, et la question qui se pose, que je me pose, je lui pose, c'est qu'est-ce qu'un droit naturel, on le redit en tant que lié à sa souche inascriptible, dès lors qu'il cesse d'être inascriptible et qu'il est proclamé. Je fais l'hypothèse, enfin, qu'avec ce passage à l'écrit d'un droit non inscriptible, disparaît la dimension tragique que j'évoquais, et que peut-être est-ce la disparition de la dimension tragique, aussi bien la dimension de la détresse propre à l'humain, de l'hypothèse, qui peut-être endeuille l'homme de telle façon que privé de détresse et de tragique, quelque chose le dispose ou le prédispose à concevoir l'arrivée d'une activité qui est celle de ce qui va être nommé dans la Révolution française la terreur. La terreur s'institue après 3 ans de processus quand se produit l'apparition de la notion de suspicion. C'est extrêmement difficile de comprendre l'apparition de la suspicion qui justifie l'existence d'un suspect. Un suspect est celui qui est passible de la terreur. La suspicion, je fais franchir des grands pas, une des façons de comprendre la suspicion, et là je vais évoquer la figure d'un des grands hommes de cette révolution, Robespierre, qui est l'homme du grand amour pour les principes, pour le droit écrit et pour le droit naturel. Mais pour le droit naturel, qui sait d'être naturel, parce que pour lui, les principes naturels doivent être totalement clairs et totalement écrits. Il ne doit plus y avoir rien d'indicible. L'hypothèse que j'ai faite, c'est que dès lors qu'il n'y a plus d'indicible pour énoncer le droit naturel d'un homme du peuple, que tout peut être dit et que rencontrant dans l'expérience du réel que tout ne peut pas être dit, que cet adversaire incompréhensible qu'est le réel face au progrès qui dit que rien n'est indicible, puisque le droit naturel est proclamé universellement le droit de tous les hommes, puisque cette révolution, sa fonction pour Robespierre est d'envahir toute l'Europe et de libérer les peuples des tyrans. Et il a une formule absolument extraordinaire pour Robespierre dans les renversements dialectiques pour épingler les tyrans, tous les tyrans. Il dit le tyran est un esclave révolté contre le droit naturel. C'est une formule absolument géniale. Considérer que le tyran est en fait un esclave révolté contre le droit naturel qui le fait lui-même être homme. C'est-à-dire c'est un homme qui se méprise lui-même. Je vais dire quelques mots sur Robespierre parce qu'il est le penseur de la terreur. Il y a eu des exécutants de la terreur. Il y a eu un penseur de la terreur et je voudrais, car c'est une leçon qui nous laisse, qui mérite d'être reprise, l'énigme de cet homme qui a fait régner la terreur bien avant que la guillotine tombe, uniquement par le poids de son verbe. Et c'est ça que je voudrais examiner. Chose étonnante, c'est que Robespierre, l'homme qui va, par son verbe, faire régner dans une assemblée de 600 députés la convention, la terreur, parce que dès qu'il parle, bien avant la guillotine, personne n'osait contredire. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans cette parole, qu'est-ce qui fait que certains révolutionnaires maoïstes, par exemple, à l'époque, quand je les fréquentais, je n'avais pu leur entendre dire que s'il y a un homme politique qu'ils admiraient absolument, c'était pas Marx, c'était pas Lénine, c'était pas Staline, c'était pas Mao, c'était Robespierre. Parce que Robespierre, avant le sang, faisait régner la terreur par sa seule parole. C'est d'autant plus étonnant que nous savons que quand Robespierre commençait à parler à la Constituante, c'était des éclats de rire qu'il avait. Il parlait d'un ton pompeux, certains disaient comme un petit curé de paroisse, comme un illuminé, d'un ton doc, d'un ton revêche. Et les gens se marraient totalement. Et donc, au moment du cheminement de cet homme qui faisait rire, en quelques années, il est l'homme qui crée, il n'y avait plus, on n'entendait plus une mouche, naturellement plus avec allemand, quand il parlait dans l'assemblée. Il y en a un, c'est plus intelligent de tous, un certain Talleyrand, qui a senti très vite que cet homme ne méritait pas de faire rire. Il a dit tout de suite, quand les gens riaient, écoutez les gars, il ne faut pas rire avec ce type parce qu'il croit ce qu'il dit. Talleyrand, tout de suite, a entendu que cet homme avait une énonciation très particulière. Rentrons dans l'intelligibilité de cette énonciation. Robespierre, contrairement à Danton, contrairement à tous ceux dont on a pu dire qu'ils auraient été corrompus, déviants, avec d'autres éléments de l'amour qu'il a passé, Robespierre se signale immédiatement dans cette déclaration à l'Assemblée par un amour inconditionnel de ce qui, dans ses discours, s'appelle le peuple. Le peuple, c'est le mot clé, qui reprend Rousseau, c'est le mot clé de l'amour de Robespierre. Le mot clé de l'amour de Robespierre. Le peuple. Le peuple, quand Robespierre parle du peuple, c'est ce qui justifie un amour absolu. Quand il commençait à parler, que les gens se marraient, il se trouve que c'était la presse commence à apparaître. Et dans la presse populaire, progressivement, l'écho se fait dans la presse. Il y a là-bas à l'Assemblée des bourgeois, il y en a un qui nous aime. C'était Robespierre. Et dans l'Assemblée, progressivement, avant que eux-mêmes entendent l'amour de cet homme pour le peuple, il leur revient par la presse que pour le peuple, progressivement, un homme aime le peuple. Cet amour de Robespierre, c'est l'amour du droit naturel du peuple. C'est un droit naturel qui a ceci de particulier, qui n'a plus rien d'indicible, et c'est un droit, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, dénué de devoir. Le fait que le droit naturel surgisse en 1789 comme un droit dépouillé de devoir est une nouveauté fantastique. D'après les historiens, je pense que Roland pourrait dire plus que moi là-dessus, d'après les historiens, le coup de théâtre de celui qui substitue à la notion de devoir l'idée de droit, c'est Hobbes, avec son Léviathan. Je ne reprends pas sa théorie, mais c'est pour dire que c'est une démonstration philosophique éblouissante à travers laquelle est proposé à la conscience collective à partir du XVIIIe siècle qu'on substitue la notion du devoir, la notion de droit. Pendant la Constituante, il y a eu quelques zigotos qui ont levé le doigt, qui ont dit est-ce qu'on pourrait parler des devoirs ? Oui, monsieur, c'est par là la guillotine. C'est pour dire que le devoir, c'est même tellement puissant qu'on dit en France, en 1948, quand la Constitution des droits de l'homme a été réécrite par. Non, Michel, vous savez, français. Bon, ça va nous revenir.
Le dernier projet ?
Non.
Le virologue.
Enfin, il voulait, quand la Constitution de 1948, il voulait réécrire la déclaration des droits et des devoirs du citoyen universel. Il y a eu une telle réticence. René Cassin. Il y a eu une telle réticence dans l'écriture de cette Constitution que l'intitulé a été supprimé et que c'est demeuré la déclaration des droits. Note bas de page, n'oublions pas les devoirs. Mais le signifiant devoir n'apparaît pas dans la déclaration rédigée par Chesson. Pourquoi est-ce que ça concerne la psychanalyse avant d'aller plus loin? Parce que ça la concerne. Est-ce que l'inconscient, parce que je disais que l'inconscient connaît l'existence du devoir, disons de la loi. Connaît-il l'existence du droit naturel, l'inconscient? C'est pas sûr. Je voudrais faire remarquer que quand Freud, son mot, quand il parle du devenir, là où c'était devient. Il dit pas là où c'était j'ai le droit de devenir. Il dit j'ai le devoir de devenir. Ça, c'est vous dire que Dante Freud a mis le doigt sur la question du devoir de devenir. Alors ça pose la question évidemment de la liberté. C'est un devoir. Est-ce une démarche libre? Je laisse ça pour la discussion. Je voulais, avant d'aller plus loin, faire remarquer que peut-être un des grands coups d'audace de Lacan, me semble-t-il, c'est que, réfléchissant à l'éthique de la psychanalyse, il fait remarquer que l'éthique de la psychanalyse ne se déduirait pas de la Déclaration des droits de l'homme. Cependant, il n'exclut pas que l'éthique analytique se déduise pas d'Antigone, qu'il définit comme la première analyse, parce que Antigone, quand elle se révolte, c'est pas au nom des droits de l'homme. C'est pour ça qu'elle s'autorise elle-même. Les droits ne sont pas proclamés. Quand elle se révolte, c'est au nom de la nature humaine, de la physique. Mais Lacan, ce qui nous transmet à travers cette séminaire sur l'éthique, c'est qu'en somme, un analysant n'a pas moins à être en rapport avec Antigone, avec cette fusisse, qui est le droit à la révolte d'un analysant, pas moins à être en rapport qu'avec Moïse, qui lui ne transmet pas, comme Antigone, le devoir de révolte, mais la loi. La loi, et je ne fais pas le commentaire, vous avez sans doute en tête la façon dont Lacan commente les 10 commandements, la façon dont il les commente, comme un type de transmission d'une loi qui concerne au plus haut titre la psychanalyse, pour autant qu'il analyse le fait que, en somme, ces devoirs transmis par la loi de Moïse, en somme, c'est ce par quoi l'interdit de l'inceste est transmis, c'est par quoi les droits de la parole comme telle peuvent vivre, pour autant que le sujet se soustrait à tout ce qui empêche la parole, c'est-à-dire l'inceste. Lacan laisse dans notre pratique le fait que droit et devoir ne sont pas dissociés comme ils l'ont été avec l'apparition des temps modernes qui voient un homme nouveau arriver, salué par son juge. Maintenant, c'est l'ère du droit au bonheur. C'est un vocabulaire qui se veut athée. En fait, c'est un vocabulaire tout ce qu'il y a de plongé dans la tradition chrétienne. Parce que quand Saint-Just vient à la tribune et brisant son auditoire la première fois, annonçant que la loi est abolie, le droit est aboli, la loi de l'Ancien Régime, et qu'apparaît un homme nouveau, c'est le vocabulaire poulinien. Le vocabulaire par lequel Paul annonça un jour, la loi est abolie, un homme nouveau arrive, et nous l'accueillons dans l'amour. Et ça, c'est Saint-Just. Saint-Just élève du Robespierre. Il n'invente rien, c'est du Robespierre tout cru. Donc, tout ceci pour nous faire sentir les paradoxes du soi-disant athéisme révolutionnaire qui a des racines complexes dans un passé chrétien et grec. Je voudrais terminer avec quelques mots sur l'homme Robespierre, l'apparition, selon moi, de la dimension du soupçon. Quand cet homme rend compte que dans ce nouvel univers, l'ancien régime est à bas, un nouveau régime vient, où plus rien n'est invisible, où l'amour qu'il a pour les droits de l'homme est incommensurable, et son amour est pour lui la preuve de l'existence de ce qu'il aime. C'est comme certains amours de Dieu, on entend que l'amour de Dieu est en somme la preuve de l'existence de Dieu. Je dis ça parce que pour Robespierre, le mot peuple vient à la place de Dieu. D'ailleurs, à la fin de sa carrière, il ne peut s'empêcher de rétablir non pas Dieu, mais l'être suprême. Sans l'être suprême, il n'y a pas pour Robespierre de possibilité de principe transcendant, platonicien, l'existence de la justice. Il est possible d'aimer la justice que s'il y a un garant, que s'il y a ce garant qui est l'être suprême. Et à cet égard, il fait brûler la statue de l'athée. C'est un homme farouchement stoïque, c'est-à-dire qui n'aime certainement pas le Dieu de la religion chrétienne, pour lequel il boude une certaine haine, mais un être suprême, très stoïque, il n'ajoute rien à Rousseau là-dessus. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Robespierre, c'est le clivage amour-haine dans lequel il est. Et dans ce clivage, sa haine des privilégiés, c'est-à-dire des aristocrates, c'est très intéressant de repérer que le reproche majeur qu'il fait à l'aristocratie, c'est d'être des athées. C'est ça le reproche fondamental. Parce que pour Robespierre, l'athéisme correspond à l'athéisme tel qu'il est défini au 5e siècle, en Grèce, par Platon. Les athées sont des êtres immoraux, des pervers. Ils n'ont aucun principe. Et je trouve très intéressant que la façon la plus radicale de Robespierre vilipendit les aristocrates, c'est leur athéisme. Et que contre cet athéisme, alors qu'il a cet amour du peuple, Dieu, et il faudrait examiner, et là n'est pas l'occasion, comment différents types d'athéisme, très différents de celui des aristocrates, sont rencontrés par Robespierre. Par exemple, l'athéisme des encyclopédistes, des gens comme le philosophe. Comment ? Je pense que son nom, je parle de. Dans le seul encyclopédiste devenu un révolutionnaire qui a survécu, Condorcet. C'est Condorcet qui dit, c'est la lutte à mort entre Condorcet et Robespierre, c'est que pour lui, Condorcet est un athée parce que Condorcet est un marquis. Mais en fait, l'athéisme de Condorcet est extrêmement intéressant, il n'a rien à voir avec l'athéisme des, on pourrait dire, des libertins aristocrates. C'est un homme grave. Condorcet, son athéisme, très proche, on pourrait dire, mais je vais vite là, je vais vite Freud. J'ai compris, en faisant cette remarque sur Robespierre, c'est que je perçois l'apparition du soupçon chez lui, et donc d'êtres suspects qui vont tomber dans le régime de la terreur, qui, tant qu'il existe, est contesté par personne, parce que c'est ça le plus troublant, c'est à quel point il n'y a pas de révolte contre la terreur quand elle s'établit. Il y a une terreur de la terreur, mais il n'y a pas de révolte. Et chacun, ce qui est inouï dans cette période, tous les penseurs révolutionnaires, un jour ou l'autre, y passent. Enfin, tous ceux qui ont quelque chose à dire. Il n'y a pratiquement pas d'exception. Ceux qui survivent, c'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, le ventre mou, les centristes, les gens qui n'ont pas véritablement une ardeur révolutionnaire. Et chaque fois qu'ils tombent, aucun d'entre eux ne se soucierait, alors qu'il le pourrait, à l'échec. Chacun, à son heure, attend, parle à son procès, mais comme Socrate, on pourrait dire, aucun ne fait de tentative d'être soustrait à l'heure de la vie. Robespierre, épouvanté par la terreur qui est cependant dans sa condition nécessaire, et donc devant le fait que le réel lui dit que tout n'est pas admissible et que le réel devient suspect. Dès que l'homme cesse d'être tragique, habité par ce réel invisible, il devient suspect. La façon, ce qui est étonnant et surprenant, c'est la façon dont chute Robespierre. Une coalition se fait contre lui, futur thermidorien, Fouché, Barras, Stalien. C'est très intéressant quand on lit tous les témoignages sur le dernier jour de Robespierre, la façon dont c'est conjuré, passe toute la nuit à réfléchir comment faire tomber le tyran. Qui ne se défie ? Comment le faire tomber ? Et quand on les entend parler, ce qui les terrifie, c'est que quand Robespierre va monter à la tribune, c'est qu'il parle et qu'on l'écoute. Parce que dès qu'on écoute Robespierre, on ne peut plus en sortir. Ils n'ont pas d'autre moyen de le faire tomber, d'organiser une sorte de chahut de collégien. Ils ne trouvent pas d'autre pour l'assassiner, pour imaginer ça. Ils ne voient pas d'autre issue de « il faut qu'il cesse de parler ». Et ils organisent un chahut, c'est-à-dire que Robespierre est attendu pour un grand discours. Ils organisent un chahut, c'est-à-dire on claque des mains, on claque des pieds et on fait physiquement du bruit en sorte que le type ne parle plus, c'est-à-dire sa parole est tellement forte. Comment ? Oui. S'il était donc, c'est ça que je trouve pour nous, c'est à quel point peut un homme qui parle au nom de l'amour ainsi, ce qu'on peut supposer, entre autres, c'est que cette terreur qui faisait régner, c'est le type de culpabilité naissant dans un auditoire où chacun s'entend bien qu'il n'était pas animé des mêmes principes d'amour, était pétrifié de culpabilité quand ils entendaient ce prêtre, Robespierre, parler de l'amour, des principes et du peuple. La terreur, j'en ai parlé un peu parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de terreur, de toutes sortes de terreurs. Je trouve que cet épisode de notre histoire, qui fait que les citer, et que cet épisode de notre histoire mérite de nous retenir, nous analystes, pour comprendre comment la parole seule dans un auditoire peut créer de la terreur et comment pour l'interrompre, semble-t-il, il n'y a pas eu un homme de parole qui pourrait dire stop, Robespierre, moi j'ai ça à te dire. Non, un chahut de collégien, pour autant que devant certains types de parole, semble-t-il, ce type de terreur nous apprend que l'homme humain peut ne plus oser parler. Oser parler, que la psychanalyse prétend apprendre. C'est un savoir que la psychanalyse transmet, je dirais, c'est une audace. Merci.